France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Paul Lynch. Je viens de terminer Le Chant du Prophète et je dois dire que cette lecture m'a vraiment marquée. Alors à l'origine, j'ai choisi de lire le livre pour son côté dystopique, c'est ça qui m'a attiré en premier. Et finalement, je crois que c'est le réalisme qui m'a vraiment le plus marqué dans le livre.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Chant pour les temps sombres, aujourd'hui dans votre book club, le nouveau roman de Paul Lynch campe l'installation d'un régime fasciste dans une Irlande quasi réelle et quasi contemporaine, sondant, au travers d'un personnage féminin, les impacts politiques, intimes, intellectuels et physiques de la réduction progressive des droits individuels et de la disparition terrorisante de la frontière entre la véracité des faits et leur manipulation. Le Chant du Prophète a obtenu le Booker Prize, Paul Lynch, et de passage à Paris, il est notre invité. Vers 15h50, lecture jeunesse, on retrouve Mathilde Wagman qui explore le champ des parutions. Pour les plus jeunes lectrices aujourd'hui, elle nous parle d'un roman pour ados qui interroge la place qu'occupe le téléphone non seulement dans leur vie mais aussi dans celle des adultes qui les entourent. Et on se quittera en chanson grâce au grand jeu des pages musicales qui cherche avec vous de la musique dans les livres. Vous savez tout, nous sommes ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Paul Lynch.
Bonjour Marie.
Oh là là, so chic. Le Chant du Prophète apparu dans sa traduction vers le français signée Marina Borasso, c'est aux éditions Albin Michel. Soyez le bienvenu dans le Book Club et bonjour Marguerite Catel.
Bonjour.
Ravie de vous retrouver à ce micro, vous allez assurer l'interprétariat. Merci beaucoup d'être avec nous. Je mentionne ceci, ce Booker Prize qui a été attribué au Chant du Prophète. Ce n'est pas votre premier roman, mais il est là mondialement mis en avant. Je ne sais pas si l'anecdote est vraie, mais elle est suffisamment jolie pour que je tente de la raconter. On dit qu'après l'attribution de ce prix, un enfant vous aurait reconnu dans la rue en Irlande et se serait mis à chanter l'hymne national de l'Irlande, parce qu'il vous aurait reconnu comme un romancier primé par ce très grand prix. D'une part, est-ce que c'est vrai, Paul Lynch? Et d'autre part, qu'est-ce que ça raconterait de la place qu'occupe la littérature en Irlande aujourd'hui?
I love how stories can evolve.
J'adore la façon dont les histoires continuent à évoluer. C'est comme un téléphone arabe.
I had just been in London.
Ce qui s'est passé, c'est que j'étais à Londres et au Royaume-Uni après le prix pendant 5 jours et je suis rentrée à Dublin. On était début décembre, il faisait froid, c'était la nuit. La nuit était humide et je devais récupérer mes enfants. Et c'était vraiment parfait. C'était le retour à la réalité, au vrai monde. Et donc, je vais récupérer mes enfants au centre de loisirs.
This 8 or 9 year old boy.
Et ce gamin de 8 ou 9 ans me voit.
And he puts his hand on his chest.
Il pose sa main sur sa poitrine, il se lève et il commence à chanter en fait ce qui est un hymne du rugby en Irlande, qui est extrêmement populaire.
That's kind of silly.
Et je me suis dit, c'est pas pour moi qui chante, c'est idiot.
Et puis,
en fait, ils étaient ensuite 8 ou 9 gamins comme le cercle des poètes disparus qui chantaient pour moi. Quand on a quitté l'école, j'ai demandé à ma fille, j'ai dit, mais c'est pour moi qui chantait? Elle a dit, mais non, je crois pas. Et une heure plus tard, j'ai reçu un SMS d'un papa qui était un ami et qui m'a dit « J'ai entendu dire que les enfants avaient chanté pour toi ». Et donc j'ai répondu « Bah oui, c'est vrai ». Mais ce qui est beau là-dedans, c'est que vous entrez dans une pièce, vous décidez d'écrire un roman, personne ne vous a demandé de faire ça. C'est quelque chose de très solitaire comme élan. Et puis vos mots sur la page, allez savoir comment, vont faire quelque chose qui pousse un enfant dans une école à vouloir le célébrer. Voilà, ça s'est passé en Irlande, mais je suis sûr que c'est la même chose en France, qu'il y a une forme de vénération pour la littérature. J'étais connue en Irlande, mais je suis devenue vraiment, du jour au lendemain, extrêmement célèbre. Après le Booker Prize, les gens m'arrêtaient effectivement dans la rue, partout où j'allais. Ma fille, qui a 9 ans maintenant et qui à l'époque en avait 8, m'a dit un jour, alors qu'un gamin venait une nouvelle fois de m'arrêter pour me féliciter, une personne venait me féliciter, elle m'a dit, écoute papa, j'en ai ras le bol de tous ces gens qui te disent bravo, félicitations.
Vous dites, ça s'est passé en Irlande, ça aurait pu se passer ailleurs, en France ou ailleurs. Je ne sais pas si ça se serait passé en France de cette manière-là, en vérité, Paul Lynch, mais mettons, toujours est-il que ça s'est passé en Irlande, est-ce que ça raconte quelque chose de la place des livres en Irlande, de la littérature en Irlande, éventuellement de, je sais pas, de la poésie en Irlande. Et si c'est le cas, comment cela vous a été transmis à vous ?
Ireland is just so deeply
L'Irlande est
made up of
tissée profondément de littérature et d'écrivains. Ça fait partie intégrante de la culture. Quand on a des grands auteurs comme Yeats, Joyce ou Beckett, ce qu'ils transmettent à la culture, c'est la puissance de leurs expériences personnelles avec la langue et l'évolution du langage. Il n'est même pas nécessaire, en fait, de lire Joyce ou Yeats pour les connaître. Et ça, ça a un impact avec le lien que vous entretenez avec la langue. Il y a quelque chose de très beau aussi dans la manière dont nous utilisons la langue anglaise. Je plaisante souvent en disant que l'Irlande a été colonisée par les Anglais, mais que nous avons colonisé la langue anglaise. Il y a une façon d'utiliser cette langue qui se fonde sur la structure de la langue irlandaise. Donc il y a une souplesse grammaticale qui nous permet de nous déplacer autrement dans la langue anglaise. Et c'est presque comme une forme de poésie lyrique. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de la culture. Et enfant, je n'ai jamais imaginé que j'allais devenir romancier. Je n'y ai pensé que bien plus tard. Mais les livres faisaient partie de ma vie. Je me souviens que mon enfant m'a appris à lire quand j'avais 4 ans. On était par terre et elle m'apprenait à lire sur les petites cartes qu'on trouvait dans les paquets de céréales. Et quand j'avais 11 ans, ma mère m'a embarqué de force à la bouquinerie du coin et elle m'y a trouvé un emploi. On parlerait aujourd'hui de travail des enfants. Une forme de servitude des enfants. Mais en tout cas, c'était une expérience formidable parce que j'ai pu tout lire. Je commençais à être à court de livres. Et quand je suis arrivée là, j'ai pu lire ce que mon père ne me laissait pas lire à la maison. Des thrillers de Jack Higgins, par exemple. J'ai commencé à lire un petit peu ces livres discrètement. Et évidemment, on tombe sur des scènes de sexe. Je ne comprenais pas ce que je lisais. Et puis, bien sûr, la littérature sérieuse qui est arrivé plus tard.
Souvent, vous dites d'ailleurs à propos de cette forme de trinité irlandaise, Yeats, Beckett, Joyce, que vous avez absorbé ça. Paul Lynch, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que vous les avez lus intensément ou que c'est passé autrement, que c'est aussi passé dans une version presque sensitive de vous-même?
Well, I mean, as I was saying, it's in the language.
As I was saying, comme je le disais, c'est dans la langue.
In the way we speak, perhaps, but you
know, dans la manière dont on parle. Mais je me souviens d'avoir lu Yeats.
Primary school kid.
Quand j'étais à l'école primaire. Et des années plus tard, alors que j'étais journaliste, je suis tombée sur mon institutrice. Je lui ai offert une pinte de Guinness. Et on parlait de ce que je faisais et. Et mon instinct m'a dit « Ah, tu es journaliste, mais moi je savais que tu allais écrire. » J'ai demandé « Mais comment tu savais ?» Et sa réponse a été « Je me souviens encore de ce jour où on lisait Yeats justement ensemble et que tu étais capable justement de mettre le doigt sur sa beauté. » Il était très ému par la façon dont on l'avait lu ensemble. Moi, je n'en avais pas de souvenir. En revanche, j'ai un souvenir très précis de ma lecture du portrait d'un artiste à 18 ans de Joyce. Et bien sûr, j'avais lu des romans déjà, mais d'un seul coup, c'était cette langue joycienne, l'électricité qui passait à travers ces phrases. Et je me souviens vraiment que mon cerveau s'est éclairé comme un arbre de Noël. C'était un sentiment que je n'avais jamais vécu encore. J'avais lu beaucoup de poésie, mais sentir l'intensité poétique dans un roman, ça a eu un impact profond sur moi. Donc j'ai toujours été attirée par les auteurs qui étaient des stylistes, les auteurs qui ont un peu le feu sacré dans leurs phrases. C'est une qualité extrêmement importante que je recherche.
Et c'est encore ce que vous cherchez dans la lecture, Paul Lynch ? Oui, bien sûr.
Je lis beaucoup, mais je relis aussi énormément. Je relis les classiques. Je pense que c'est très important de faire ça. C'est très important de relire les livres parce que ça permet de les connaître. À la première lecture, ça vous traverse, mais vous passez à côté d'énormément de choses. Et les livres changent, ils évoluent avec vous. Quand on vieillit, on sait que quand on relit un livre 10 ans plus tard, on n'est pas le même lecteur et que le monde a changé aussi. Donc relire, c'est quelque chose de fondamental pour moi. J'enseigne aujourd'hui à l'université, quelques mois par an. Et ce que j'enseigne aux étudiants en fiction, en écriture, c'est que je leur enseigne à lire, à ralentir et à laisser venir les idées de cette manière. Il y a un certain type d'auteurs qui sont devenus très importants pour moi, je crois. Je les appelle les réalistes cosmiques. Pour moi, ce sont des écrivains qui considèrent l'humanité comme d'un point de vue cosmique, comme s'ils observaient la condition humaine au travers du temps, à une échelle qui est très vaste, mais en étant en même temps tout à fait capable de décrire la texture des meubles. Je parle d'auteurs comme Melville ou Dostoïevski ou Conrad ou Faulkner ou Woolf aussi d'une certaine façon. Des écrivains qui sont vraiment capables de montrer ce que nous sommes d'une manière intemporelle et d'aller dans des idées extrêmement profondes avec cette langue qui a ce feu sacré en elle.
Ça m'intéresse que vous citiez Woolf dans cette dernière liste de d'auteurs cosmiques comme ça, parce que si bien sûr on va parler, pour ce qu'il s'agit de votre livre à vous, Paul Lynch, des dimensions politiques, de la manière dont vous étudiez comme ça la mise en place d'un système totalitaire, d'un régime fasciste progressif sur une société en particulier, moi j'ai été très frappée de ce que vous faites de des sensations intérieures des personnages, de comment vous rendez la manière dont on voit une lumière, une couleur, dont vous travaillez l'odorat de vos personnages, dont vous travaillez la texture des choses qu'ils touchent, de la peau des bébés qu'on porte, de leur poids sur un bras, enfin vraiment des choses très 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 intérieures. Et ça m'a fait penser notamment à un livre que moi j'aime énormément qui s'appelle To the Lighthouse, La promenade au phare de Virginia Woolf, où on est aussi comme ça dans les plus grandes intériorités. Est-ce que vous avez souvenir de lectures marquantes où vous seriez, en tant que lecteur, vous auriez été comme ça en prise avec des choses très 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 internes presque, physiquement parlant, j'entends.
To the Lighthouse was an influence that I allowed.
Ce livre de Virginia Woolf, To the Lighthouse, m'a aussi influencé. Je savais en écrivant ce livre que j'étais en train de faire quelque chose qui était complètement différent. Je savais que c'était une forme d'inconnu pour moi, quelque chose de complètement unique pour moi. Mais j'ai laissé une place à Virginia Woolf aussi. Et ce livre-là en particulier, je l'aime aussi beaucoup. Cette idée de la vie comme une flamme d'une petite allumette dans la nuit. Dans la vie, on ne sait rien. On n'a que cette petite flamme, on est environné de ténèbres. Mais cette intériorité, c'est un style que je développe au fil de mon œuvre. Et le but, encore une fois, c'est d'essayer d'avoir une gamme la plus vaste possible pour être à la fois objectif et subjectif et pour pouvoir emporter le lecteur dans le moment vécu, au cœur du moment vécu. Il n'y a que la fiction qui est capable de faire ça, de construire cet espace où on est vraiment dans la pulsation du moment, dans la texture. J'adore ce que Virginia Woolf appelle justement ces moments d'être où on se transcende, on transcende une forme de réalité fluide. Je médite, ça fait peut-être un tiers de ma vie que je me suis mis à la méditation, et cette idée de surpasser son ego est quelque chose qui m'attire énormément parce que je médite, mais j'aime bien l'idée d'utiliser ça pour amener le lecteur au même endroit, pour qu'on soit dans le même espace ensemble et que cette texture de la vie, ce ressenti de la vie, soit aussi présent que l'histoire qu'on raconte. C'est pour ça que mes phrases sont en quelque sorte mimétiques, c'est comme ça que je les qualifie. Elles sont au cœur de l'énergie et du sentiment de vécu. Ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas, le ressenti de ce qui se passe, de l'événement, en même temps que l'événement qui se déroule devant nos yeux. Ce qui veut dire qu'elles sont toujours protéiformes, parce qu'elles répondent, elles réagissent à l'énergie du moment. Et ce que ça fait, c'est que, en tout cas, je l'espère, ça donne un sentiment d'immersion au lecteur, le sentiment d'être vraiment plongé dans cette vie. Quand on fait ça, on crée la possibilité d'une empathie radicale, pas d'une sympathie, d'une empathie, où on ressent, on expérimente, on vit soi-même ce monde-là, comme si ça nous arrivait à nous. Et c'est ça l'objectif. Ça fait partie de mon projet.
Et on va en parler plus précisément, Paul Lynch, de votre livre juste après cette chanson de Joy Division sortie en 1979. Elle s'appelle Interzone et certaines de ses paroles nous ont fait penser à l'univers que votre livre travaille et fabrique. Ian Curtis chante, dans une traduction approximative, « J'ai traversé les limites de la ville, attiré par une force intérieure, et là, dans un coin, gisait un prophète. »
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un cauchemar plus que vraisemblable aujourd'hui dans votre book club. On voudrait se réveiller, mais vous êtes déjà réveillée, madame. Une nuit, deux hommes d'une police nouvelle frappent à la porte d'une maison de Dublin. On demande après le mari, enseignant et syndicaliste. Il doit se présenter au commissariat le lendemain matin, accusé d'un trouble à l'ordre public. L'engrenage est lancé, la réduction des droits sera proportionnelle à celle progressive de l'espace mental de chacun. Proportionnelle aussi à la restriction des circonstances. L'État fasciste, délirant, policier, bientôt guerrier que dépeint votre nouveau roman, Paul Lynch, couronné du Booker Prize, ressemble à bien des régimes contemporains. Mais l'une des singularités de ce livre est qu'il raconte sa mise en place à travers le corps, l'esprit, le regard, l'âme presque, l'essence éveillée et résistant d'une femme. Le chant du prophète apparu dans sa traduction vers le français signée Marina Borasso aux éditions Albin Michel et on en parle avec vous, Paul Lynch. Vous êtes interprété en direct par Marguerite Capelle. Si vous voulez bien, on va commencer par le début et par la première scène de votre roman.
La nuit est tombée et elle n'a pas entendu les coups à la porte. Elle regardait le jardin par la fenêtre, l'obscurité qui enveloppe les cerisiers sans un bruit. Elle achève de recouvrir leur feuillage et le feuillage ne leur résiste pas. Il accueille l'obscurité dans un murmure. La fatigue, la journée tirant à sa fin et tout ce qui lui reste à faire avant d'aller dormir, les enfants réunis au salon, ce sentiment de paix qu'elle éprouve fugacement devant la vitre. Contempler le jardin gagné par l'ombre et ce désir en elle de s'unir à l'obscurité, de sortir s'étendre à ses côtés, reposer près des feuilles mortes et laisser couler la nuit. Ne se réveiller qu'à l'aube et se lever régénéré avec le matin. S'il n'y avait pas ses coups à la porte. Elle les entend se loger dans sa conscience. La brusquerie, l'insistance qu'il y a dans ses coups. Chacun semble si rempli de la présence de celui qui frappe qu'elle fronce les sourcils. Maintenant, c'est Bellet qui cogne sur la porte vitrée de la cuisine. « Maman » appelle-t-il, pointant un doigt vers l'entrée sans détacher les yeux de l'écran. La voilà qui déplace son corps dans cette direction, le bébé dans les bras. Elish s'avance pour ouvrir, et il y a deux hommes derrière la vitre de la véranda. Dans le noir, ils n'ont pas vraiment de visage. Elle allume la lumière et aussitôt elle reconnaît ces hommes à leur manière de se tenir. L'air froid de la nuit qui semble respirer quand elle fait coulisser la porte, le calme des quartiers résidentiels, la pluie feutrée qui tombe sur San Lawrence Street et sur la berline sombre garée devant la maison. Ces hommes qui semblent apporter avec eux la sensation de la nuit. Elle les observe à l'abri d'un refuge intérieur. Le jeune homme de gauche demande si son mari est là, et cette façon qu'il a de la regarder, à la fois distante et inquisitoriale, lui donne l'impression qu'il cherche à saisir quelque chose en elle. D'un rapide coup d'œil, elle a parcouru la rue, aperçu un passant solitaire qui promenait son chien, protégé par un parapluie, le balancement des saules qui saluaient la pluie, les pulsations lumineuses d'un grand écran dans le salon des Ajac de l'autre côté de la rue. Et finalement, c'est elle-même qu'elle inspecte. Elle en rirait presque de ce sentiment de culpabilité que l'on éprouve toujours quand la police frappe à la porte.
C'est le début de votre roman, Paul Lynch. On est au tout début du chant du prophète. Et cette scène pourrait aussi être trois flics tapent à une porte, toc toc toc. Or, on a d'abord la texture des feuilles, on a l'obscurité, on a là où est Eilish dans sa journée, on a ce qu'elle désirerait faire de son corps, s'unir à l'obscurité. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est l'inverse de trois policiers d'une police bientôt fasciste ou déjà fasciste tapent à une porte. Qu'est-ce que ça nous dit de la... Je sais pas, de l'endroit où se trouve votre texte, de l'endroit presque sensible, imaginaire où se trouve votre texte.
When I wrote that first page,
eh bien, j'ai écrit cette première page et je n'avais aucune idée de ce que j'allais en faire, je n'avais aucune idée d'où j'allais, le projet. Et pourtant, elle était là. Elle était incarnée par les mots, elle était incarnée par ce qu'elle ressent et ce qu'elle voit. Cette obscurité. Et toutes ces sensations qui sont extrêmement symboliques de ce dont parle le livre, en fait. Et donc, elle est apparue comme une présence. Et c'est là que le monde ensuite entre. La première localisation pour le lecteur, c'est auprès d'elle, et ensuite le monde va entrer avec ses coups frappés à la porte. C'est ça qui est significatif. Avant l'ouverture du livre, un gouvernement a pris le pouvoir, qui est un gouvernement populiste, qui a instauré des lois d'urgence pour réduire au silence l'appareil judiciaire et les médias. Et donc les choses sont déjà jouées, d'une certaine façon. Il est déjà trop tard. Et Eilish, comme tous les autres, ne s'est rendu compte de rien et a continué à avancer vers ce régime totalitaire. Et donc quand les policiers viennent frapper à la porte, ces agents de la police secrète, ils veulent parler à son mari, parce qu'il est syndicaliste. Et donc c'est le moment où l'État fait irruption dans le foyer familial. Quand elle referme la porte, et qu'elle retourne à la cuisine, elle sent quelque chose qui reste avec elle, qu'elle n'arrive pas à identifier. Elle sent qu'il y a quelque chose, une présence. Et c'est celle de l'État qui est rentrée chez elle, cette énergie maléfique qui va se développer et qui va les dévorer, de même qu'elle est en train de dévorer le monde connu, le monde des démocraties libérales, celui avec lequel elle a grandi. Mais le livre s'intéresse essentiellement à la dimension existentielle et au coût personnel qu'a cette tragédie, plutôt que de regarder et d'identifier les courants politiques. Parce que sinon, ce serait un livre qui parlerait de telle idéologie politique, plutôt que de parler de ce que ça signifie d'être une personne qui vit ce qui se passe dans le livre.
D'ailleurs, on a l'impression qu'à la fois la structure de votre roman, mais aussi, et on va y venir, le champ lexical, presque le champ poétique, la structure même de vos phrases, vient enserrer, vient chercher autant de manières de dire l'obscurité, de dire l'énergie du mal, de dire l'impalpable, de l'inquiétude, comme si vous cherchiez par la langue à circonscrire quelque chose qui est si difficile à rendre visible. Bien sûr, il y a des faits, bien sûr, il y a les arrestations, bien sûr, il y a la torture bientôt, enfin, je veux dire, et que vous décrivez par ailleurs, Paul Lynch. Mais vous, vous creusez aussi quelque chose qui est, qu'est-ce que ça laisse sur la peau? Comment ça transforme la manière dont on voit ce qu'il y a autour de soi? Comment ça bouge la voix dans ce qu'on dit à nos enfants? Enfin, on a l'impression que vous voulez autre chose que seulement raconter les faits. Pour moi, la phrase est une manière d'exprimer la réalité dans toute sa richesse. Et la réalité, c'est aussi ce qu'on ne connaît pas et ce qu'on ne comprend pas. Donc, il faut que les phrases s'attaquent à cette sensation de ne pas savoir ce qui se passe. Eilish, par bien des aspects, se sent complètement à l'écart de ce monde qu'elle ne comprend plus. Elle se sent rejetée. C'est quelque chose qu'elle ne comprend plus. Elle a l'impression d'être dans une forme de labyrinthe. Elle essaye de comprendre l'inconnu et de faire des choix qui soient certains, mais en réalité elle se retrouve en permanence dans cette incertitude. Ça revient à cette idée de la flamme de la petite allumette dans le noir. Comment exprimer ces formes de silence, ces formes d'obscurité auxquelles elle est confrontée? C'est un livre. En fait, je ne cherche jamais à simplement raconter une histoire.
I consider my novels to be metaphysical.
Mes romans, pour moi, sont métaphysiques. Ce qui m'intéresse, c'est ce que c'est d'être humain, d'être au monde.
You know, these are difficult questions to go.
Ce sont des questions difficiles à explorer, et la question est toujours plus importante que la réponse.
How is one in the world? How
Mais ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on est au monde et comment est-ce qu'on connaît le monde.
An individual person.
Combien d'humains il y a à l'intérieur de chaque individu. Et quand ce qu'on ne veut pas vient frapper à notre porte, comment est-ce qu'on réagit? Comment on retrouve une forme de dignité quand le monde autour de nous est implacable et nous réduit au silence et à une forme d'indifférence et se moque bien de nous? On traverse la vie avec ce sentiment de sens infini que l'on porte en nous, cette impression qu'on est chacun un univers, chaque personne est un univers de sentiments, mais que le monde s'en moque. Voilà les questions que j'essaie toujours d'explorer. Et dans ce roman, il y a aussi la question du deuil, qui est vraiment centrale dans la vie. On perd toujours quelque chose, tout sera perdu un jour, tout est impermanent. Et ce qu'on perd, c'est ce qui est le plus précieux. C'est ça que j'essaye d'exprimer dans le roman. Les choses qu'on prend pour acquis, l'amour de notre famille, l'amour qu'on a pour nos enfants, pour notre mari ou notre femme, la possibilité de se lever tous les matins, d'amener ses enfants à l'école et d'aller au travail, la vie telle qu'on la connaît dans une démocratie libérale, je voulais montrer, exprimer ce que ça fait quand ça vous échappe, l'impuissance que ça suscite. Il y a tellement de choses qui se passent quand on vit ça. Je considère toujours la réalité comme du gris à haute résolution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de noir et de blanc. Et le travail de l'auteur de fiction, c'est de se saisir de cette réalité, de cette complexité. Il n'y a pas de réponse. Nous écrivons dans l'inconnu, pour entrer dans l'inconnu et dans ce que nous ne connaissons pas. Et c'est là qu'est la puissance. Et c'est ça qui nous émeut.
Vous le faites notamment à travers ce personnage de Eilish. C'est un personnage qui a beaucoup ému et beaucoup interpellé notre auditrice Raphaël. Elle a lu votre livre, Paul Lynch, et elle vous adresse une question.
Bonjour le Book Club, bonjour Paul Lynch. Je viens de terminer Le Chant du Prophète et je dois dire que cette lecture m'a vraiment marquée. Alors effectivement, on est dans un roman, mais je trouve qu'il était criant d'actualité à l'heure où l'on parle des démocraties libérales et où on se rend compte que nos démocraties sont fragiles. Et ce qui m'a bouleversé le temps de la lecture, c'était vraiment les personnages, le traitement des personnages, et notamment de cette mère de famille, Eilish, que l'on retrouve hébétée, sonnée et combative, comme on s'imagine peut-être nous-mêmes face à cette situation. Et je voudrais savoir si vous avez rencontré pour la rédaction du livre, ou échanger en tout cas avec des personnes qui ont été, elles, pour de vrai, confrontées à ce type de situation. Merci.
Merci à vous, Raphaël, pour ce témoignage de lecture et pour cette question. Paul Lynch.
Well, thank you for that question.
Merci pour cette question.
I didn't meet people in particular,
je n'ai pas rencontré de personnes en particulier, mais j'ai lu énormément d'essais qui parlaient de différents aspects de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ce qui est important pour moi quand j'écris des personnages, c'est simplement d'écouter la vérité de la situation et l'humanité du personnage quand il réagit. Et c'est ce qui donne un personnage crédible, espérons-le. Eilish, elle réagit comme n'importe quelle personne d'aujourd'hui dans sa complexité. Et dans ce livre-là, j'essaie de retracer avec elle le parcours d'une personne, d'une contemporaine, en particulier une femme, qui doit gérer tellement de choses à la fois. Ses enfants, ses ados, qui sont tous difficiles, qui veulent tous des choses différentes. Elle a aussi un tout petit, une petite surprise de dernière minute. Et puis, elle a ce mari qui a été englouti par l'État, qui a disparu. Elle a son père qui est pris de démence sénile. Et en même temps, elle est cadre aussi dans une société pharmaceutique. Elle a énormément de choses à gérer. Mais c'est ça la vie d'aujourd'hui. Même dans une vie quotidienne, comment est-ce qu'on fait pour jongler avec tout ça? Et en même temps, assister à l'effondrement du monde tel qu'on le connaissait. Donc je la vois vraiment comme une femme moderne, mais aussi en même temps comme une femme intemporelle et même de l'Antiquité. Pour moi, c'est un personnage grec, cette femme.
Absolument, pour moi, c'est très important qu'on souligne ça. Et d'ailleurs, je me suis dit, on n'a encore rien dit, Paul Lynch, de ce titre-là, Le chant du prophète. Vous prenez deux mots comme si c'était les mots les plus anciens de ce que c'est que raconter des histoires. Le chant, on est vraiment du côté de Homer et le prophète, on est du côté des textes sacrés, enfin vraiment les plus anciens textes. Et moi, quand j'ai lu le livre, j'avais fait comme d'habitude, j'avais pas lu ce dont il était question, j'avais pas lu le communiqué de presse, j'avais pas lu la quatrième, je savais pas où j'étais. Et je me suis dit, c'est m'aider. C'est un grand personnage de l'Antiquité, c'est un personnage de... Je ne savais pas à quelle époque elle était, j'ai oublié que ça pouvait être contemporain. Et il me semble que vous travaillez un champ comme ça de femmes qui... Ouais, dépasse toutes les questions, dépasse en même temps qu'elle les embrasse toutes les questions ultra-contemporaines.
Je suis toujours en quête de la dimension mythique dans mon écriture. Plus on s'approche du mythe, plus l'histoire devient universelle. Et c'est là qu'on peut s'attaquer au plus grand sujet. Ce qui m'intéresse, c'est l'idée du destin et la façon dont on peut le redéfinir aujourd'hui. Tout ce qu'on ne comprend pas, qui définit notre vie, notre monde, avons-nous vraiment le libre arbitre? Je n'en suis pas persuadée. Eilish est persuadée d'être une personne qui peut faire des choix et en même temps, le destin est la machine des événements a sa propre puissance et sa propre énergie. On a l'impression d'être poussière face à ça. Eilish est toujours en train de faire des choix, de prendre des décisions, d'essayer de comprendre comment sortir de ce labyrinthe. Et sauf que les choix qu'elle doit faire n'ont pas de réponse facile.
Exactement, la question de l'exil est très
importante. Ça, c'est quelque chose qui est répété dans le roman. Très tôt, son père, qui est à la fois sénile et en même temps lucide, qui est un scientifique, est en train de comprendre que le système est en train d'être corrompu et que la réalité est en train d'être corrompue, qu'un contrôle est en train d'être pris. Il dit, si on répète suffisamment les choses, les gens finissent par croire que c'est vrai. Et il lui dit, tu vas devoir partir parce que la seule issue possible, c'est un effondrement, une destruction. Sa sœur au Canada lui dit à Eilish au téléphone, tu dois partir. L'histoire est une archive silencieuse de personnes qui n'ont pas su quand partir. Et Eilish ne peut pas comprendre parce que, comme nous tous, elle est complètement incrustée dans cette complexité de la vie. Molly fait du hockey,
ses enfants
et son fils est en dernière année, il va passer ses examens. Elle a sa carrière, la vie est compliquée. Elle essaie de récupérer son mari. Quand son fils tombe et se casse la hanche, qu'est-ce qu'elle doit faire? On ne peut pas, comme ça, déraciner complètement sa vie. Et on fait ça tout le temps. On regarde des documentaires, on regarde des films sur l'Holocauste. Et on se dit, moi, j'aurais su. J'aurais eu la perspicacité de comprendre ce qui allait arriver et de partir. Et ce livre pose la question, vraiment, vous auriez su ? Moi, je ne crois pas. Comment pouvoir réellement analyser l'époque dans laquelle on vit ? Comment savoir quand le moment est venu, quand on doit partir ? On doit laisser tout derrière soi et c'est le plus difficile au monde.
Quand même, en vous entendant, Paul Lynch, on entend qu'au-delà de la construction romanesque, c'est presque le sentiment tragique de l'histoire qui vous intéresse. On le sent bien dans exactement ce que vous venez d'énoncer. C'est là, sentiment tragique de l'histoire qui vous viendrait d'où ?
J'aimerais pouvoir vous donner une réponse sincère. Les écrivains ont toujours une forme de sensibilité, quelle qu'elle soit, et on la reconnaît dans les auteurs qu'on lit. Il y a un moment où j'ai commencé à me rendre compte que ceux qui m'émouvaient le plus étaient les tragédiens, Shakespeare, Sophocle, mais aussi des auteurs comme Faulkner ou Conrad ou Cormac McCarthy, des auteurs qui ont cette dimension cosmique, cet œil cosmique, ce regard qui ne renonce jamais et qui essaye d'agripper la vérité du monde pour dire la vérité, justement. Quand on lit de la fiction, de très bonne fiction, quand on revient à de très bons livres, ce qu'on voit, c'est la vérité humaine. Quand on regarde ce que font les mathématiciens ou les physiciens dans l'abstrait, on peut imaginer que leurs équations sont vraies, mais on ne les voit pas en action dans la vie. Et je pense que les auteurs de fiction, eux aussi, abordent de la vérité humaine de façon abstraite. En réalité, ils écrivent des équations de la vérité humaine. Quand on relit Jane Austen, ce que j'ai fait religieusement, on la relit parce qu'on sait qu'elle a su saisir une forme de vérité humaine dans sa propre voix et dans son propre style. Et donc, il y a beaucoup de grands écrivains auxquels je reviens toujours parce que c'est ça qu'ils proposent. La vérité, c'est ça qu'on cherche en tant qu'écrivain.
Vous avez dit tout à l'heure que c'était aussi un livre sur le deuil, et presque plus que sur le deuil, sur la perte. Elish et les autres perdent tout, jusqu'au plus précieux, donc leur liberté, leur libre arbitre, l'idée d'un état de droit, la notion même du vrai et du faux, jusqu'à des enfants, perte ultime, enfants torturés, emprisonnés, exilés. Un livre sur le deuil et sur la disparition et le silence. On va écouter un nouvel extrait du chant du prophète.
Dormir, dit Carole d'une voix lointaine, comme perdue dans une autre dimension, et son regard traverse Elish sans la voir. Je ne dors presque pas. Chaque soir, je rêve de tomber dans un sommeil profond, mais ce n'est plus possible. J'ai mis un moment à comprendre, mais je sais maintenant que je dormais déjà d'une certaine manière. Je ne faisais que dormir alors que je me croyais éveillée. J'essayais de sonder le problème qui se tenait devant moi comme une immense obscurité, ce silence qui dévore chaque seconde de ma vie. À force, j'ai cru perdre la raison. Et puis je me suis réveillée et j'ai commencé à saisir ce qu'ils nous font. C'est tellement intelligent comme méthode. Ils te prennent quelque chose et ils le remplacent par le silence. Et toi, tu ne vis plus. Tu es constamment face à ce silence. Tu n'es plus qu'une chose confrontée à ce silence. Une chose qui attend que ce silence s'achève. Une chose à genoux, qui le supplie à voix basse. Une chose qui attend qu'on lui restitue ce qu'on lui a enlevé pour pouvoir reprendre le cours de sa vie. Mais ce silence n'a plus de fin, tu comprends ? Il te laisse vaguement espérer que ce qui te manque te sera un jour rendu. Et toi, tu restes là, paralysé, amoindri, émoussé comme un vieux couteau. Et ce silence ne finit jamais. Parce qu'il est la source de leur pouvoir, sa signification secrète.
La traduction française de votre texte signé Marina Borasso qui paraît aux éditions Albin Michel, Le chant du prophète, Paul Lynch. La puissance de ce pouvoir totalitaire, c'est le silence. Le sens même de ce pouvoir, c'est le silence. On te prend tout et on le remplace par le silence. Quand vous dites que vous cherchez une sorte de dimension mythique du texte, il y a aussi tout ce qui vient d'universel. C'est-à-dire qu'en écoutant ce texte-là, on pourrait très bien être dans la dictature chilienne, on pourrait très bien être dans la dictature syrienne, on pourrait très bien être à Gaza aujourd'hui, avec des familles qui cherchent leurs disparus et des corps ensevelis. Bref, on pourrait très bien être partout, des régimes totalitaires à enlever des corps, enlever des vivants et y a placé du silence, du mensonge, de la falsification. Mais au-delà de ça, ça m'intéresse de voir qu'est-ce que vous en avez fait, je sais pas, même d'un point de vue littéraire de ce silence-là. Comment vous l'avez travaillé, la manière dont c'est ce silence qui pénètre les vies au final.
It's a good question. It's actually tricky to answer.
C'est une bonne question et c'est, à vrai dire, assez difficile d'y répondre parce que le silence, c'est le silence, mais en même temps, on le ressent dans l'absence. L'absence d'un mari, l'absence des enfants qui ont peut-être été enlevés par l'histoire. Eilish est l'adulte qui tient l'espace et qui essaie de tenir cet espace pour ses enfants. Et c'est le silence qui la mange, qui la dévore. Elle a l'impression, elle sent, se réveille, elle sent le livide à côté d'elle. Elle rencontre la femme de quelqu'un qui travaille avec Larry et qui est consumée par ce silence dont on vient de parler. C'est pétrifiant, ce silence. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Rien ne vous revient en retour. Et c'est là qu'on réalise à quel point on est impuissant dans ces situations. On est confronté à quelque chose qui est bien au-delà de notre compréhension. Il n'y a aucune manière d'affronter ça parce que c'est implacable. Et c'est là qu'on sait qu'on n'a plus rien, plus aucune capacité d'agir. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, cette idée de saisir cette énergie du vécu, de l'expérience, d'essayer d'entrer dans cet espace qui est unique, spécifique à tout ce dont vous parlez. Les gens commencent à lire le livre, vous lisez, vous en France, et vous dites « Ah, c'est peut-être une sorte d'histoire qui est un avertissement, qui nous dit où on en sera dans 10 ans si on ne fait pas attention. » C'est une lecture assez fréquente chez le lecteur européen, et en même temps, si vous êtes dans un autre hémisphère, vous avez l'impression de lire votre quotidien, peut-être. Votre réalité actuelle. J'ai rencontré beaucoup de gens pendant les signatures qui étaient des réfugiés. J'ai rencontré des gens d'Ukraine, des gens de Gaza, et qui m'ont dit « Mais c'est notre histoire que vous avez racontée. » Et ça, c'est absolument extraordinaire pour moi. Et c'est quelque chose que je prends très au sérieux. Que ce texte puisse parler à tous ces aspects différents, d'une certaine manière. Mais c'est ce que j'essaye de faire, de me concentrer sur l'expérience humaine. Encore une fois, le sujet n'est pas la politique, ce n'est pas un roman politique, c'est un roman métaphysique. Et c'est là que l'universel apparaît et qu'on touche au mythe. Cet aspect de la nature humaine qui ne change jamais, parce que c'est un livre qui est un cri de deuil, un cri de souffrance pour tout ce que nous sommes en tant qu'humains et tout ce que nous continuerons à subir, cet aspect impitoyable de la vie humaine. Depuis que le livre a été publié, il y a eu l'Ukraine, il y a eu Gaza. Et je ne suis pas étonnée parce que c'est ce que nous sommes, que nous soyons prêts à le reconnaître ou non, c'est ce que nous sommes. Et il y a un moment vers la fin du livre qui, pour moi, est très central dans le sens de l'histoire où Eilish a vraiment traversé les 9 cercles de l'enfer. Elle a tant perdu. Elle regarde autour d'elle et elle se rend compte qu'en fait, la fin du monde, c'est quelque chose, c'est un événement local. C'est quelque chose qui se passe dans votre ville, qui vient frapper à votre porte. Et c'est la fin du monde pour votre famille, pour votre communauté, mais pas pour le reste du monde. Pour le reste du monde, c'est quelque chose qu'on appelle la guerre et qu'on regarde à la télé. C'est quelque chose qu'on appelle l'effondrement et qu'on regarde de loin, avec lequel on n'est pas en lien, parce que c'est la fin du monde pour ces gens-là. Et c'est ça que je voulais montrer et que je voudrais qu'on reconsidère. Je voulais faire la démonstration de cette expérience. Quand on regarde l'actualité, c'est vraiment difficile d'être en lien avec ce qu'on voit. Et il y a une forme de compassion, mais il y a une citation de Nietzsche que j'adore, où il dit que la pitié exige un très grand niveau d'imagination. Et on n'a pas cette place, cet espace disponible dans nos esprits pour comprendre vraiment la complexité qui va pousser quelqu'un à s'embarquer dans un bateau. Pourquoi un être humain pourrait prendre une décision qui paraît aussi obscène de mettre ses enfants dans un bateau? Pourquoi faire ça? Je voulais vraiment entrer dans cette complexité-là, celle d'une vie où on vous a tout pris.
Il y a aussi l'idée que le roman et la fiction, et puisque vous parlez de la nécessité d'un imaginaire pour aller jusqu'une empathie, une sympathie, voire une pitié pour un sort qui nous échappe, j'aimerais qu'on écoute pour terminer Paul Lynch, la voix de la philosophe Hannah Arendt dans une archive de 1973 qui parle de la place des innocents dans les systèmes totalitaires.
Lorsque je vois un système totalitaire, j'essaie de l'analyser comme une nouvelle forme de système politique inconnu auparavant. Pour cela, j'essaie d'énumérer ses caractéristiques principales. Parmi celles-ci, je voudrais vous en rappeler une qui est entièrement absente actuellement de toutes les tyrannies. Il s'agit du rôle des innocents, des victimes innocentes. Sous Staline, il n'était pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour être déporté ou pour être exécuté. La dynamique de l'histoire attribuait un rôle à cette victime et elle devait jouer ce rôle, quoi qu'elle ait fait par ailleurs. Cela, bien évidemment, l'essence du totalitarisme. Le fait qu'il y ait une totale domination de l'homme par l'homme.
1973, la voix d'Hannah Arendt, que j'introduisais Paul Lynch en faisant l'hypothèse que vous prenez aussi le roman comme un outil de pensée, comme un outil de réflexion. En entendant cette archive-là, est-ce que d'une part vous validez cette idée-là, que cette fiction que vous écrivez, c'est aussi une façon de réfléchir? Et d'autre part, est-ce que vous en faites un outil sûr de penser sur le système totalitaire? Parce qu'on a dit beaucoup, c'est pas un roman sur la politique, c'est pas un roman sur la politique. Mais quand même.
Yeah, I mean, I think that Arendt is absolutely right.
Je pense qu'Arendt a raison sur de nombreux aspects. C'est un rôle qui vous est attribué, vous n'avez pas le choix, ce rôle de victime. Elle a parlé aussi de l'incapacité à penser. Elle a dit que c'était aussi une caractéristique de la vie sous un régime totalitaire et que c'était aussi ce qui conduisait au régime totalitaire, le fait que la pensée soit réduite au silence. Et on vit dans un monde où on est bombardé par les médias, les contenus médiatiques, et notre attention est fracturée, fractionnée. On a peu d'espace pour réfléchir à ce que nous sommes.
On arrête là, non, parce qu'en vous écoutant, je me dis, finalement, elle parle de l'impossibilité de penser ou de la manière dont la pensée est réduite au silence. Et il me semble qu'on s'est peu attardé sur le fait que le premier homme arrêté dans votre roman, c'est un universitaire. C'est quelqu'un qui enseigne. C'est quelqu'un dont le travail, c'est précisément d'animer la pensée, de fabriquer de la pensée critique. Pourquoi est-ce que vous teniez à ça, Paul Lynch?
You know, the role of reason is obliquely discussed in this.
De la raison est abordé de façon indirecte dans ce livre. Les scientifiques représentent ce qu'on a eu depuis 500 ans. L'objectivité, la raison, l'idée de se construire ensemble une compréhension du monde qu'on est capable de, sur laquelle on peut se mettre d'accord. Et c'est ça qui aujourd'hui est déstabilisé. C'est ça qui est aujourd'hui le moment où justement les choses se défont. C'est le moment où on retire cette possibilité d'avoir une compréhension commune. Vous parlez d'écrire un roman comme une manière de réfléchir. Je reviens à Keats. Ce qu'il parlait, il parlait de capacité négative, l'idée d'écrire vers l'inconnu, d'écrire vers ce qu'on ne connaît pas, sans nécessairement chercher de certitude ou de réponse. Et j'aime beaucoup cette idée. Je n'écris pas pour changer le monde. Je n'écris pas avec une solution en tête. Beaucoup d'auteurs de fiction politique connaissent la réponse qu'ils ont envie d'apporter à leurs problèmes. Mais ça, dans ce cas-là, c'est le sujet sur lequel moi je travaille, c'est le deuil. Et ça, c'est le deuil auquel il n'y a, justement, c'est le problème humain auquel il n'y a pas de réponse. Chaque livre est une opportunité d'explorer un nouvel aspect de cette caractéristique humaine que je ne comprendrai jamais. C'est peut-être une manière de m'exprimer à moi-même ce que c'est que la perte, ce que c'est le deuil. C'est vraiment le point de vue tragique sur le monde. Je suis citoyen, je suis père, j'ai des enfants et je veux que le monde soit un endroit qui soit bien pour eux, mais j'ai aussi besoin d'exercer mes pensées les plus profondes. Et les deux ne vont pas forcément ensemble, alors c'est pour ça que je me tourne vers la fiction.
Le book club continue.
France Culture, le Book Club. Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, comme chaque mercredi, l'heure est venue de parler littérature jeunesse avec vous, Mathilde Wagman. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Aujourd'hui, vous nous parlez d'un roman pour adolescents qui s'empare de la question de la présence des téléphones dans la vie des enfants.
Et oui Marie, ces téléphones que l'on dit intelligents et qui ont envahi nos existences à toutes et à tous, y compris celles de nos enfants. C'est un fait indéniable et qui suscite bien des questions et bien des inquiétudes légitimes. L'autrice Agnès de Sarthe, qui écrit pour les adultes et pour les enfants depuis de nombreuses années, s'en empare pour composer un réjouissant roman pour jeunes ados qu'on peut lire dès la fin de la primaire ou l'entrée au collège. Il s'appelle « Les téléphonistes anonymes » et apparu aux éditions Gallimard Jeunesse.
Je souris à ce titre génial. Qu'est-ce que ça raconte et pourquoi ce drôle de titre ?
L'histoire nous est racontée par Prudence, une jeune fille qui vient de rentrer en cinquième. Or, depuis le début du collège, Prudence fait partie des invisibles. Elle est, de son propre constat, une sorte de fantôme. Personne ne lui adresse la parole. Elle n'est pas martyrisée, pas harcelée. De cette situation d'ailleurs, elle semble avoir pris son parti, mais c'est ainsi, elle traverse la vie scolaire sans échanger avec quiconque. Et pour cause, Prudence n'a pas de portable. À la récré, tandis que tous les élèves sont occupés à pianoter, surfer, scroller, tapoter, filmer et poster sur Snapchat ou sur Plickplouk, Prudence rêvasse, elle fait autre chose et cette différence l'isole. Ce n'est pas que ses parents lui ont interdit d'avoir un portable d'ailleurs, juste ils sont antiques, comme elle dit, c'est-à-dire qu'ils sont vieux et que le téléphone occupe une place assez limitée dans leurs propres existences. C'est comme ça, c'est la vie. Mais cette vie va changer brutalement le jour où Georges, le garçon le plus populaire de la 5e B, vient la trouver. Pour une raison qu'il ne veut pas révéler, ses parents lui ont confisqué son portable et il a besoin de Prudence, premièrement, pour qu'elle l'aide à comprendre comment on fait pour vivre sans cet objet, et deuxièmement, pour qu'elle convainque les autres qu'il a choisi de se passer de téléphone. Le stratagème marche et à la suite de Georges, voici donc que Tamar, Noah, Lou, Asiatou, Ruben et Tom décident de vivre eux aussi sans écran. Pour traverser l'épreuve, tous se retrouvent régulièrement au cours de réunions où chacun raconte comment ça se passe, si Lou elle a réussi à tenir, si Lou elle a craqué, si ça a été difficile ou non. Partant de là, la petite bande va découvrir une nouvelle manière d'être ensemble.
Je ris parce qu'on reconnaît quand même à la fois l'intelligence et l'humour d'Agnès de Sarthe. On devine, Mathilde, que ce roman porte quand même un regard assez critique sur l'usage de ces objets.
Oui, bien sûr. À travers cette histoire, c'est la place envahissante qu'occupe le téléphone dans la vie des ados qui est pointée. Quelques pistes de réflexion sur les raisons de cette situation sont avancées. D'abord, la transformation du rapport au temps que ces objets induisent, perceptible par exemple lorsque Georges explique à Prudence pourquoi la privation de son téléphone le terrifie. « C'est génial de ne pas sentir le temps passer », lui explique-t-il. « Le dentiste a une heure de retard, aucun problème, le voyage en train dure 6 heures, génial !» Avec le téléphone, on oublie tout. Pour autant, le roman n'est jamais moralisateur ou dans une position qui condamnerait les enfants. Au contraire, ces derniers se révèlent de fins analystes de leur propre addiction, qui est évidemment de même nature que celle des adultes. Le plaisir que les ados pourront prendre à cette lecture tient d'ailleurs pour partie à cela, c'est davantage les travers des parents qui sont croqués, à commencer par le contrôle que certains exercent à travers les téléphones sur leurs enfants, comme en témoigne la réaction de plusieurs d'entre eux qui, lorsqu'ils réalisent que leur progéniture, n'utilise plus les téléphones, s'en offusque au motif qu'ils ne peuvent plus savoir où les enfants sont. Ce que les livres dénoncent au fond, c'est la nature profondément paradoxale de ces outils anxiolytiques et anxiogènes, vecteurs de relations et redoutables agents isolants. De même qu'est paradoxale l'attitude des parents qui consiste à reprocher aux enfants de passer trop de temps devant les écrans tout en étant agrippés à eux du matin au soir. De ces paradoxes, l'autrice fait une matière romanesque et hautement comique.
Et une matière proprement littéraire, donc, et pas seulement un sujet de société. Mathilde.
Oui, exactement, Marie. Le plaisir de la lecture de ce livre dépasse largement son sujet et passe notamment par la finesse de la caractérisation des personnages, à commencer par celle de sa malicieuse narratrice. Et puis il y a Monsieur Landry, le professeur d'histoire qui raconte des histoires et qui, à l'occasion d'un cours sur la Rome antique, parle à sa classe de cette expression latine panem et circenses, littéralement du pain et des jeux. Comme il l'explique, cette expression est restée célèbre parce qu'elle correspond à une façon de gouverner qui consiste à offrir à la population des divertissements pour mieux l'empêcher de se révolter. Leçon bien retenue par les partis populistes, souligne le professeur. Et c'est ici que ma chronique rejoint le roman dont il a été question aujourd'hui dans l'émission, Marie, car la portée de ce livre pour les enfants est aussi éminemment politique. Alors que l'on vient d'apprendre que Mark Zuckerberg, le patron de Meta, société qui englobe Instagram, WhatsApp et Facebook, décide de limiter la modération sur ses réseaux, dans une ligne très proche de celle d'Elon Musk, on se dit que l'on ferait peut-être bien, nous aussi, de nous inscrire au téléphoniste anonyme.
Merci beaucoup Mathilde et merci pour cet écho, en effet, avec l'actualité brûlante qui résonnait beaucoup avec le texte de Paul Lynch. Lecture Jeunesse, votre chronique est à retrouver sur le site internet de France Culture et sur l'application Radio France. Et je rajoute que régulièrement, sur le compte Instagram du Book Club, Alexandre Alaï-Begovitch fait des carousels avec voilà, une sélection de vos meilleurs choix, parce que vous faites pour nous ce travail important de l'attention portée à la littérature jeunesse. À la semaine prochaine. À cette heure-ci, dans le Book Club, Paul Lynch, on cherche de la musique dans les livres et on demande à la fois à nos auditeurs de jouer avec nous. Ça s'appelle le grand jeu des pages musicales. On peut ou bien nous envoyer un mail, lebookclub@radiofrance.com, ou bien jouer via la page Insta. Et puis, de temps en temps, on cherche nous-mêmes de la musique dans les livres. On n'en a pas trouvé dans Le Chant du Prophète. Est-ce qu'on s'est trompé?
The novel is its own music.
Je crois que c'est le roman qui est sa propre musique.
Bien trouvé. Donc, on a joué aujourd'hui avec une auditrice qui s'appelle Mathilde. Elle a soumis un extrait d'un livre qui s'appelle Tasmania, paru en 2023 aux éditions Le Bruit du Monde, dans une traduction depuis l'italien par Nathalie Bauer. Et c'est un livre de Paolo Giordano. À l'aéroport d'Orly, après avoir laissé mon avion décoller, j'avais loué une voiture chez Thrifty, un modèle économique, toutefois doté d'une prise USB, si bien que j'avais branché mon téléphone et écouté Skeleton Tree au cours du trajet sur l'autoroute. Nick Cave avait sorti ce disque à la pochette noire après la mort de son fils Arthur, tombé d'une falaise de craie surplombant la Manche. L'album avait été composé en bonne partie avant l'accident, mais chaque vers, chaque harmonie transmettait un sentiment de perte. Au cours de cette période, j'écoutais sans cesse Skeleton Tree et je pensais beaucoup à Arthur. Il s'agissait d'une sorte de traitement. Si l'engendrement d'un enfant contenait implicitement la possibilité d'une séparation aussi traumatique, alors la paternité ne me convenait vraiment pas. Je n'avais pas été privée d'une occasion, j'avais été épargnée. Écoute après écoute, la plainte de Nick Cave due à la mort prématurée et inadmissible d'Arthur finirait par me débarrasser du désir de paternité. Paul Lynch, d'avoir été avec nous pour parler de votre dernier livre, primé par le Booker Prize, Le Chant du Prophète. Il a paru aux éditions Albin Michel. Je répète le nom de votre traductrice depuis l'anglais irlandais, Marina Borasso. Merci aussi à vous, Marguerite Capelle, d'avoir été avec nous pour interpréter les mots de Paul Lynch. Au son aujourd'hui, c'était Ludovic Auger à la réalisation, Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Cyril Marchand, Oriane Mignot, Marianne Chassor et Alexandra Laïbegovitch, avec qui vous poursuivez la conversation sur le compte Instagram du Book Club.